Voilà, ce qualificatif de baptiste fait référence au baptême, puisque c'est un culte de baptême. Et le mot baptême veut dire immersion, c'est un plongeon dans l'eau qui a comme signification la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais vous voyez, ce n'est pas une religion que nous prêchons, c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et pour le message ce matin, j'ai choisi un passage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, à partir du verset 22, Actes 16, 22. Et ce qui attire mon attention dans ce texte biblique, c'est de voir comment Dieu conduit les choses, même dans les situations les plus rocambolesques, n'est-ce pas, pour amener les gens à se poser les vraies questions, ces questions qui ont une portée éternelle et donc pour les conduire à lui. Tout à l'heure, on va écouter le témoignage des quatre personnes qui ont pris la décision de se faire baptiser, de donner leur témoignage public devant l'Église et devant le monde de leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Et on va constater qu'effectivement, chacune de ces personnes a eu un cheminement qui leur est propre, qui lui est propre. Chacun a vécu quelque chose, a fait une expérience quelconque, soit grâce à des personnes, soit grâce à des circonstances qui l'ont conduit à comprendre l'Évangile et à le saisir dans leur vie, dans leur cœur. Alors je vous invite à écouter la lecture de ce texte biblique. Actes chapitre 16, à partir du verset 22. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda au gardien de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Il tira son épée pour se tuer car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici !» Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et ta famille avec toi. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les amena à 7 heures même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas chez lui et leur offrit à manger. Cet homme, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. L'apôtre Paul, je ne sais pas si vous le savez, peut-être que oui, depuis sa conversion à Jésus-Christ, il allait partout annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, afin de aussi, non seulement que les personnes se convertissent à Jésus-Christ, donnent leur vie à Jésus-Christ, mais aussi pour fonder des églises, pour réunir dans les villes où il annonçait l'évangile, tous les chrétiens, ceux qui avaient cru, les réunir et ainsi pouvoir continuer le travail de propagation de l'évangile. Et ici, il est accompagné de l'un de ses collaborateurs précieux, Silas, et ils ont comme objectif d'aller annoncer l'évangile en Macédoine, nous dit ce chapitre 16, plus précisément dans une ville qui s'appelait Philippe, ville où il y a eu la conversion de pas mal de personnes, et notamment de ce gardien de prison qui a posé la question qu'il fallait absolument poser, la question à laquelle il ne pouvait pas échapper, la question des questions, la question fondamentale de la vie. Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Mais avant d'examiner cette question qui est effectivement très importante, je trouve, et d'aller voir le bouleversement par lequel cet homme est passé, je vous propose d'abord de jeter un coup d'œil au contexte dans lequel cet événement s'est passé. Les circonstances qui ont permis à l'apôtre Paul et à Silas de se retrouver en prison et de parler à l'évangile à cet homme, à ce gardien de prison. Cela nous permettra de voir qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. C'est finalement Dieu qui conduit les choses. Comme disait Einstein, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. C'est Dieu qui voyage incognito. L'apôtre Paul avait reçu la conviction que le Seigneur l'appelait à évangéliser la Macédoine. Alors, la Macédoine, ça n'a rien à voir avec ce mélange de plusieurs légumes, n'est-ce pas, couper un petit morceau qu'on mange souvent dans nos maisons avec la mayonnaise ou avec une bonne sauce. La Macédoine était à l'époque une province d'Asie mineure. On peut la situer à peu près en Turquie. Or, pour évangéliser cette province, l'apôtre Paul décide de commencer par cette ville qui s'appelle Philippe. Elle s'appelait ainsi car elle avait été fondée par Philippe de Macédoine au IVe siècle avant Jésus-Christ. Sauf que maintenant, au moment où l'apôtre Paul et Silas arrivent dans cette ville, elle se trouvait sous juridiction romaine. Il s'agissait d'un grand centre urbain au cœur de la province de Macédoine. Le verset 12 de ce chapitre dit qu'il s'agissait de la ville la plus importante de Macédoine. On sait qu'elle se situait sur la Via Ignatia, donc cette grande voie romaine, n'est-ce pas? Elle la reliait au port de Néapolis, ce qui l'a placée en quelque sorte au cœur de l'Empire romain. Et donc le choix de cette ville par l'apôtre Paul et Silas était un choix stratégique. En effet, l'apôtre Paul annonçait l'évangile dans les grands centres urbains, tout simplement parce qu'il se disait, en annonçant l'évangile dans un centre urbain, après, les chrétiens de cette ville vont annoncer l'évangile eux-mêmes autour de cette grande ville. Un peu comme nous ici à Clermont-Ferrand, n'est-ce pas, capitale d'Auvergne, notre église est née grâce à l'effort de certains chrétiens qui sont venus d'ailleurs. D'ailleurs, quelques-uns sont là parmi nous ce matin. Et maintenant, nous qui sommes là, nous avons ce même désir de rayonner avec l'évangile autour de Clermont-Ferrand, à Brioude, à Issoire, à Cournon, etc. Ils vont donc à Philippe, ville qu'ils considéraient incontournable, et ils restent, dit Luc, plusieurs jours. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais plusieurs jours, ça veut dire que ce n'est pas une journée, c'est plusieurs jours, un certain temps. Et ils annoncent l'évangile de Jésus-Christ. Il y a eu sans doute beaucoup de conversions, mais Luc va mettre l'accent sur trois personnes qui vont jouer un rôle fondamental et qui vont contribuer au progrès de l'évangile dans cette ville et dans cette région. Il s'agit de deux conversions assez différentes dans leur mode d'expression et d'une délivrance. En ce qui concerne la première conversion, si vous avez votre Bible ouverte, vous pouvez voir, Luc nous dit que Paul et Silas sont allés annoncer l'évangile à un groupe de femmes qui se réunissaient hors de la ville, au bord d'une rivière. Et parmi ces femmes se trouvait une certaine Lydie, marchande de pourpre, dit-il, donc une commerçante, qui s'est convertie au Seigneur, elle et sa famille. Famille qui a été baptisée avec elle, nous précise le texte. Alors ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que ce passage ne parle pas de bébés baptisés, comme prétendent certains aujourd'hui. Aucun texte du Nouveau Testament ne parle d'une telle pratique à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque apostolique, car ce serait en contradiction avec les autres passages de la Bible qui affirment que la condition pour être baptisé, pour être sauvé, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et pour croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut comprendre le message de l'Évangile. D'ailleurs, dans ce même livre, nous voyons que l'évangéliste Philippe est allé annoncer l'Évangile à l'eunuque d'Éthiopie. Et il lui a demandé, mais est-ce que tu comprends le texte biblique que tu es en train de lire? Et après avoir expliqué ce texte biblique à l'eunuque, l'eunuque lui a demandé de le baptiser, de se faire baptiser par Philippe. Et Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc compréhension de l'évangile, compréhension des Écritures et décision de se faire baptiser. L'eunuque a confessé sa foi, il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Philippe l'a baptisé suite à cette confession. Or, on le sait bien, un bébé ne peut pas comprendre l'évangile, il n'a pas l'âge de comprendre l'évangile, il ne peut pas croire, n'est-ce pas? Il faut qu'il grandisse d'abord pour pouvoir prendre la décision plus tard de suivre le Seigneur et de se faire baptiser. Et comme nous savons par la parole de Dieu que l'eau du baptême ne sauve pas, c'est de l'eau, elle ne sauve pas, c'est par la foi, nous dit la parole de Dieu, que nous sommes sauvés. D'ailleurs, il y a ce verset dans, les, dans, la lettre aux Éphésiens qui dit que ce n'est pas la grâce de Dieu, donc la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, notre foi à nous. Donc nous voyons que les choses sont claires, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et à nous de faire confiance à ce que le Christ a fait et après donc prendre la décision de donner ce témoignage par le baptême. D'autre part, il faut aussi savoir que le mot grec qui est traduit par famille ici dans ce texte ou dans d'autres traductions, maison, le mot oikos, inclut tous ceux qui vivent au sein de la famille, non seulement les membres de la famille, parents et enfants, mais aussi les serviteurs, ceux qui sont au service de la famille et qui vivent tous ensemble. Donc c'est très probablement le cas pour cette dame, Lydie, n'est-ce pas? Elle avait plusieurs personnes qui étaient à son service. Ces personnes se sont converties au Seigneur et ils ont tous décidé de se faire baptiser. D'ailleurs, il semblerait que Lydie était veuve, elle, donc, ou célibataire, mais probablement veuve. Donc elle s'est fait baptiser avec toutes ces personnes qui étaient à son service, toutes ces personnes qui ont cru comme elle au Seigneur Jésus. Donc voilà, la première personne concernée par l'évangile dans cette ville, c'est cette femme. Elle a été touchée par la grâce de Dieu. Elle a compris le message de l'évangile proclamé par Paul et Silas. Elle ouvre son cœur à l'évangile. Elle ouvre les portes de sa maison pour accueillir l'église naissante de la ville de Philippe. Elle ouvre la voie à l'évangile dans cette ville et dans cette province de Macédoine. Et les premiers chrétiens de cette ville, ce sont donc elles et sa famille, les siens, sa maison. Le deuxième personnage est une esclave qui n'est pas nommée, mais qui possédait l'habileté, soi-disant, de prédire le futur à ceux qui venaient l'interroger. Et Luc lit cette capacité qu'elle avait à une puissance occulte. Or, l'apôtre Paul, prédicateur de l'Évangile, va délivrer cette esclave de cet esprit, de ce mauvais esprit qu'elle avait en elle. Le problème, c'est que cette délivrance de l'esclave va contrarier ceux qui exploitaient cette jeune fille, ceux qui gagnaient l'argent grâce à elle. Et donc, comme ils voient leur chiffre d'affaires chuter devant leurs yeux, ils se disent « il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose ». Et ils vont traîner l'apôtre Paul et Silas devant la foule en ville, n'est-ce pas? Et ils vont trouver un prétexte. Ils savent que s'ils disent aux magistrats et à la foule que Paul et Silas ont délivré cette fille d'un esprit démoniaque, ils vont perdre leur cause. Alors ils ont trouvé un prétexte, ils sont allés dénoncer les apôtres et les accuser de répandre de faux enseignements, ce qui était beaucoup plus grave, de troubler la paix romaine et en quelque sorte de nuire à toute la population de la colonie romaine. Or, on sait bien que la vraie cause, c'était une raison économique, n'est-ce pas? Ils ne voulaient pas perdre l'argent qu'ils gagnaient avec cette jeune fille. Et donc, c'était plus facile de gagner, disons, le procès par ce biais-là que de parler de la délivrance de ce mauvais esprit. Devant de telles accusations, qu'est-ce que la foule va faire? La foule va prendre parti contre Paul et Silas. Ils vont battre Paul et Silas sévèrement, à coups de bâton, nous dit le texte, et les deux prédicateurs de l'Évangile vont se trouver en prison, derrière les barreaux. Et c'est là que cette histoire intéressante de la conversion de ce troisième personnage de notre récit, le geôlier de Philippe, va avoir lieu. Paul et Silas, malgré les mauvais traitements reçus et le fait de se retrouver donc derrière les barreaux, vont se mettre à prier et à chanter en prison. Vous avez déjà vu ça? Après des mauvais traitements, chanter et prier. Prier peut-être, mais chanter. Chanter est un signe de joie, n'est-ce pas? Or, ils vont se mettre à prier et à chanter des louanges à Dieu en attendant dans le calme et la confiance que la volonté de Dieu s'accomplisse pour eux. Malgré les circonstances difficiles, ils vont faire confiance à Dieu. Et au lieu de se plaindre de ce qui leur est arrivé, au lieu de se plaindre des hommes, de se plaindre, ils bénissent Dieu. Ils bénissent Dieu pour sa souveraineté, parce qu'ils savent que Dieu conduit les choses. Ça me rappelle l'histoire de ces deux rabbins dans l'Allemagne nazie qui font tout leur possible pour apporter à leurs compatriotes un soutien et un réconfort spirituel. Pendant deux ans, bien que mourant de peur, ils parviennent à tromper leurs persécutés et célèbrent des offices religieux un peu partout. Finalement, les rabbins sont arrêtés. Ils sont arrêtés et l'un d'eux, terrifié de peur à l'idée du danger qu'il menace, Ils n'arrivent pas à se contrôler. Ils tremblent vraiment de peur. Ils prient de peur. Ils ne dorment pas. Ils ne savent pas quoi faire. Alors que l'autre, il dort tranquille dans son lit. Le premier va le voir et lui dit, mais pourquoi agis-tu ainsi? Et l'autre répond, mais pour ménager mes forces. Je sais que dorénavant, je vais en avoir besoin. Mais n'as-tu pas peur? Ne sais-tu pas ce qui nous guette, ce qui nous attend? Et l'autre répond, oui, j'ai eu peur jusqu'au moment de mon arrestation. Mais maintenant, à quoi bon avoir peur? C'est fait, je suis en prison. Le temps de la peur est terminé. À présent commence le temps de l'espoir. À présent commence le temps de l'espoir. Paul et Silas savaient que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a affirmé plus tard, n'est-ce pas, lorsqu'il a écrit sa lettre aux Romains. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'ils étaient en prison, ce n'était pas par hasard. C'est parce que Dieu l'a permis. C'était sans doute dans le plan de Dieu qu'ils se retrouvent ce jour-là en prison devant ce gardien. Donc ils chantaient et ils priaient. Et ils priaient, mais parce qu'ils faisaient confiance que Dieu allait diriger toutes choses de la meilleure manière possible. Ils avaient la conviction que Dieu contrôlait la situation. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres prisonniers entendaient les cantiques et les prières. Et apparemment, ils se sont laissés interpeller aussi par ce qu'ils ont entendu. Et ce, d'autant plus que Dieu va répondre d'une façon extraordinaire, n'est-ce pas, à l'emprisonnement de Paul et de Silas. Il va envoyer un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrent. Les chaînes des prisonniers tombent et le geôlier se réveille en sursaut. À ce moment-là, il croit que les prisonniers se sont barrés, n'est-ce pas? C'était normal, comme l'apôtre Pierre avait fait lorsque l'ange est venu lui ouvrir la porte. Il n'est pas resté en prison, il est sorti. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, pensant qu'il avait failli à son devoir de gardien de prison et sachant qu'il sera sévèrement puni pour ça, il prend son épée pour se donner la mort. Il se rappelle sans doute, en tout cas nous rappelons, n'est-ce pas, nous lisons dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres, que ces gardiens qui avaient le devoir de garder Pierre ont été exécutés par Hérode. Lisez ça dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres. Et donc c'était la punition. Un gardien était responsable de ces prisonniers. Et il savait bien qu'il allait mourir. Or, plutôt que d'être condamné par négligence et pour échapper au déshonneur, aux tortures, au supplice terrible, il décide lui-même de mettre fin à ses jours. Il préfère devancer le jugement en se donnant la mort, en se donnant lui-même la mort. Mais l'apôtre Paul va l'arrêter. L'apôtre Paul va l'arrêter en criant que tous les prisonniers sont là. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. En quelque sorte pour signifier au gardien qu'il n'est responsable en rien de ce qui est en train de se passer. Et c'est à ce moment-là que cet homme se jette tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas et qu'il leur pose la question des questions, comme je disais tout à l'heure, la question essentielle que tout homme doit se poser, la question à laquelle personne d'entre nous ici matin ne peut échapper. Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Paul et Silas lui annonçaient tout simplement l'évangile de Jésus-Christ. Leur prédication, Luc l'a résumée en ces quelques mots par cette fameuse phrase « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Là encore, il est extraordinaire, n'est-ce pas, de voir comment Dieu agit pour le bien de cet homme, pour le bien de sa famille, comment il s'est révélé à lui et à sa famille. Et l'apôtre Paul et Silas lui ont sans doute annoncer l'essentiel de l'évangile, de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La situation dans laquelle les hommes se trouvent depuis la désobéissance d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Et leur expulsion du jardin d'Éden. Ils lui ont sans doute parlé de la condamnation qui pèse sur l'humanité tout entière, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ils lui ont sans doute expliqué que Jésus-Christ a subi la condamnation à notre place et que si nous acceptons par la foi que son sacrifice à la croix a été fait, un, pour que la justice de Dieu s'accomplisse, parce que Dieu ce qu'il dit doit s'accomplir. Et deux, pour qu'en même temps, nous n'ayons pas à subir la condamnation de nos péchés, cette condamnation qui pèse sur nous depuis la désobéissance d'Adam et Ève, si nous acceptons par la foi cela, nous serons sauvés, nous dit la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et cet homme a saisi tout ça par la foi. Il a ouvert son cœur au Seigneur, ainsi que ceux de sa famille, comme l'ont fait ceux de la maison de Lydie et Lydie elle-même. Il a donné des preuves de repentance, là sur place, car le texte nous dit qu'il a conduit Paul et Silas chez lui pour que sa famille aussi entende l'évangile, pour que sa famille soit évangélisée. Il leur a lavé les pieds qu'il avait, les plaies qu'ils avaient sur le corps à cause de la violence qu'ils avaient subie quelques heures auparavant. Il leur a servi à manger. Il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. D'ailleurs, une chose qui apparaît souvent dans ce livre des Actes des Apôtres, c'est la joie du salut. La joie de tous ceux qui reçoivent le salut en Jésus-Christ. Ils se sont réjouis de croire en Dieu et ils ont décidé de se faire baptiser tous ensemble. Il y a un proverbe portugais qui dit « Dieu écrit droit sur des lignes courbes ». Et je pense qu'on voit ça ici dans ces textes et dans le livre des Actes des Apôtres avec la conversion des uns et des autres, n'est-ce pas? Qui pouvait imaginer que cet homme, ce gardien de prison, qui doit être un homme assez dur pour exercer ce métier, allait un jour se retrouver devant des prédicateurs de l'Évangile et donner sa vie au Seigneur. Et j'aimerais dire ce matin que s'il y a ici quelqu'un qui se pose aussi cette question, que dois-je faire pour être sauvé? Je dirais que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. On a dit tout à l'heure que le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui conduit les choses. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous avons tous, en chacun de nous, la pensée de l'éternité. Et je dirais aussi que ce n'est pas par hasard que vous êtes là ce matin, non pas parce que c'est une église baptiste, parce que nous ne prêchons pas une doctrine religieuse, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sauve, pas l'église baptiste. Mais je dirais que ce n'est pas par hasard que vous êtes là ce matin. C'est sans doute Dieu qui est en train de diriger votre vie, de conduire votre vie, d'opérer votre vie afin que vous puissiez vous aussi vous poser cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? La vie est trop courte pour ne pas se poser cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Et peut-être que son esprit est en train de vous dire ce matin, en tout cas ceux qui n'ont pas encore répondu à cette question, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison, parce qu'en acceptant le Christ, tu auras sans doute parlé chez toi au tien de cet évangile qui a transformé ta vie. Alors je dirais tout simplement, pour terminer, il est temps de vous joindre aussi à ce grand nombre de chrétiens partout dans le monde qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et de dire ce matin, si vous voulez le dire ce matin et le chanter avec nous, nous allons chanter « Je confesse devant les hommes et devant les anges, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur ». Alors prenez la décision de le faire et joignez-vous à l'ensemble de l'Église pour chanter ce cantique.